Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Marie Duhamel.
Cent mille fidèles ont assisté à la messe de clôture de deux journées mariales organisées au Vatican. Place Saint-Pierre, le pape a rejeté la culture du provisoire, du relatif qui touche aussi le mariage. Dieu nous demande d'être fidèles, de dire oui tous les jours, de ne pas être un chrétien par à-coup, a dit le pape. À l'issue de la messe, François a prononcé un acte de confiance à la Vierge au pied de la statue de Notre-Dame de Fatima. En Espagne, 30 000 catholiques ont assisté ce dimanche à la béatification de 522 martyrs espagnols tombés pendant la guerre civile. Par leur intercession, le pape a supplié le Seigneur de libérer le monde de toute violence. Et puis enfin, l'invité de ce dimanche était réparateur de pneus, il est maintenant réparateur de vie. En Afrique de l'Ouest, Grégoire Aung Bognon a créé 9 centres d'accueil pour malades mentaux. Bonjour à tous et bienvenue dans le magazine en langue française de Radio Vatican. C'était le point d'orgue de deux journées mariales organisées au Vatican dans le cadre de l'année de la foi par le Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation. Le pape a présidé la messe ce dimanche matin devant plus de 100 000 fidèles, membres pour certains d'associations mariales. Place Saint-Pierre, quelques mètres derrière l'autel, se trouvait la statue originale de Notre-Dame de Fatima, exceptionnellement déplacée pour l'occasion. À ses pieds, le pape a prononcé au nom de toute l'Église un acte de confiance. Dans son homélie, François avait déjà demandé à la Vierge Marie qu'elle aide les hommes à se laisser surprendre par Dieu sans opposer de résistance, à lui être fidèle chaque jour, à le louer et à le remercier. Olivier Bonnel.
A-t-on peur de ce que Dieu nous demande ? Sommes-nous capables de nous laisser surprendre, de faire entrer Dieu dans nos vies, même s'il rompt nos schémas et bouleverse nos projets et notre sécurité ? C'est ce que le pape a demandé aux fidèles. Dieu nous surprend avec son amour et, poursuit François, nous demande la fidélité dans le fait de le suivre. Le pape regrette et dénonce la culture du provisoire, du relatif. Face au premier problème, nous jetons l'éponge et malheureusement cela arrive aussi dans les choix fondamentaux, comme celui du mariage. Il est souvent facile de dire oui, mais il est difficile de répéter ce oui chaque jour. Or Marie, elle, a prononcé beaucoup de oui dans les moments de joie comme de douleur. Pensez jusqu'où la fidélité de Marie est allée, a dit le pape, voir son fils unique sur la croix. Et de nouveau, François pousse à l'introspection comme Marie. Sommes-nous des chrétiens toujours ou au contraire des chrétiens par à-coup ? Dieu nous demande de lui être fidèles chaque jour dans les actions quotidiennes, mais pas de point de non-retour. Si nous lui sommes infidèles, Dieu ne se lasse pas de tendre la main à l'homme pour qu'il reprenne la marche. Il nous donne sa force et nous devons lui rendre grâce. François a enfin été très applaudi quand il a encouragé les fidèles à savoir également se remercier en famille, proposant 3 mots-clés pour que celle-ci aille toujours de l'avant. S'il te plaît, pardon et merci, des mots-clés pour vivre ensemble.
Permesso, scusami.
Et à la fin de la messe, le pape François s'est ensuite approché de la statue de Notre-Dame de Fatima, prononçant à ses pieds un acte de confiance. « Nous sommes sûrs que chacun de nous est précieux à tes yeux et que rien de tout ce qui habite nos cœurs ne t'est étranger. Nous recevons la caresse consolante de ton sourire. » Le pape a demandé à la Vierge de bénir et renforcer tout désir de bien, de raviver, d'alimenter la foi, de soutenir et illuminer l'espérance en suscitant la charité. Guide-nous tous sur le chemin de la sainteté. Le pape François a enfin souhaité que la Vierge enseigne aux hommes, et lui inclus, son amour de prédilection pour les plus petits, les pauvres, les exclus, les personnes en souffrance. Et quelques minutes avant l'Angélus, à la fin de la célébration, la statue de la Vierge de Fatima a été transportée dans l'enceinte du Vatican. Samedi soir, elle avait été exposée toute la nuit à une dizaine de kilomètres au sud de Rome. Dans le sanctuaire marial du Divin Amour, des milliers de fidèles ont passé la nuit. Le pape leur a envoyé un message retransmis simultanément dans 9 sanctuaires à travers le monde. Au Kenya, en Inde, au Japon, au Brésil, en Argentine, en Terre Sainte, en Belgique ou encore en France, à Lourdes. Dans son message, le pape a invité les pèlerins à penser au regard de Marie quand ils sont fatigués, découragés, écrasés par les problèmes. Elle nous invite à suivre Jésus, à témoigner de Jésus parce qu'en lui seul se trouve le salut.
Ô Maria, facci sentire il tuo sguardo di madre.
Ô Marie, a conclu le pape, fais-nous sentir ton regard de mère. Conduis-nous à ton Fils, fais que nous ne soyons pas des chrétiens de vitrine, mais des chrétiens qui sachent se salir les mains pour construire avec ton Fils son royaume d'amour, de joie et de paix.
Regno d'amore, di gioia e di pace.
Le pape a présidé la messe, il a également, comme chaque dimanche, récité la prière de l'Angélus. Toujours place Saint-Pierre, François a salué de jeunes missionnaires, des détenus italiens, des pèlerins panaméens. S'arrêtant, cela dit, plus longuement sur l'exemple à suivre de 522 nouveaux bienheureux. Aujourd'hui à Tarragone, en Espagne, ont été proclamés bienheureux près de 500 martyrs, tués en raison de leur foi durant la guerre civile espagnole pendant les années 30. Louons le Seigneur pour leur courageux témoignage, a dit le pape, et par leur intercession, supplions-le de libérer le monde de toute violence. François a également enregistré un message vidéo qui a été retransmis devant près de 30 000 fidèles au cours de la cérémonie présidée en Espagne par le cardinal Amato, le préfet de la Congrégation pour les causes des saints. Un message dans lequel le pape demande aux nouveaux martyrs d'intercéder pour que nous ne soyons pas des chrétiens sans substance, eux qui étaient des chrétiens jusqu'au bout. À 13h, vendredi, les cloches de toutes les églises chrétiennes ont sonné aux Philippines. Les églises entendent ainsi lancer un appel au monde politique en faveur de la transparence et de la lutte contre le clientélisme et la corruption. Celle-ci gangrène l'administration du pays où un scandale fait de plus en plus de bruit. Des élus auraient détourné plus de 6 milliards de pesos entre 2007 et 2009. L'argent public donné par le Congrès aux élus devait leur permettre de financer des projets de développement et non la construction de leur maison ou leur campagne électorale. Les chrétiens veulent exprimer un cri en faveur des pauvres, de la justice et de la prospérité de tous. Désormais, les cloches des églises du pays sonneront tous les vendredis à 13h. Des Philippines aux deux Corées, 60 ans après l'armistice signé en 1953, un train pour la paix et la réconciliation entre les deux Corées vient de quitter Berlin. Le convoi, organisé conjointement par le Conseil œcuménique des Églises et les Conseils nationaux des Églises de Corée, avec à son bord quelques 130 représentants des Églises ou de la société civile, ce convoi traversera la Russie, le nord-est de la Chine, les deux Corées, avant d'arriver à Busan, une ville portuaire de Corée du Sud. C'est là que commenceront les travaux le 28 octobre prochain de la 10e assemblée du COE sur le thème « Dieu de la vie, conduis-nous à la justice et à la paix ». L'assemblée du Conseil œcuménique des Églises s'achèvera le 8 novembre prochain. L'invité de ce dimanche est un homme exceptionnel. Il s'appelle Grégoire Aungbonon, il est béninois d'origine et a émigré en 1971 en Côte d'Ivoire. Il s'est établi sur place comme réparateur de pneus rapidement. Des problèmes économiques ont eu raison de sa réussite sociale, il songe au suicide. C'est alors qu'il rencontre un prêtre et sa vie bascule. Il commence à secourir les malades livrés à eux-mêmes dans les hôpitaux. On est en 1983. Plus tard, alors qu'il visite une prison où sont entassés des détenus, il a une révélation. Quel que soit le mal qu'ils avaient fait, c'était des hommes. Ce choix le conduit, au début des années 90, à découvrir l'existence des oubliés, c'est-à-dire des fous. Et depuis qu'il se consacre aux malades mentaux, Grégoire Aungbonon a déjà créé 9 centres d'accueil pour malades mentaux. Cette semaine, dans cette première partie, il nous raconte comment il en est arrivé à devenir réparateur de vie. Il est interrogé par Sœur Catherine Aubin.
Wake up, send up Africa. Grégoire Aungbonon, vous étiez il y a une vingtaine d'années réparateur de pneus et aujourd'hui on peut dire entre guillemets que vous êtes un réparateur de vie. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui vous est tombé dessus?
Qu'est-ce qui s'est passé? Je dirais que c'est Dieu qui l'a voulu. Sinon, je suis originaire du Bénin et en 71, je suis parti en Côte d'Ivoire pour commencer mon travail de réparateur de pneus. Je dirais que quand j'étais au Bénin, j'aimais beaucoup Dieu, j'aimais beaucoup l'Église. Mais arrivé en Côte d'Ivoire, face dans mon travail, j'ai eu la fortune. J'ai gagné beaucoup d'argent. Quand j'étais au Bénin, Dieu était ma seule référence. Face à la fortune, j'ai abandonné Dieu, j'ai abandonné l'Église. Et la fortune est devenue ma référence. Heureusement pour moi, ça n'a pas duré longtemps. Je ne saurais comment l'expliquer. Est-il dit brusquement, j'ai commencé à avoir des durs problèmes économiques. Et à la fin, j'ai tout perdu. J'ai tellement perdu que moins un, j'allais me suicider. J'ai commencé à mener une vie misérable. Lorsque j'avais l'argent, j'avais beaucoup d'amis. Mais quand j'ai tout perdu, tout le monde est parti. Il ne restait seulement que mon épouse et les deux enfants que j'avais à l'époque. Mais en même temps, j'ai commencé à avoir d'autres amis qui commencent à me promettre des bonheurs, la vie facile, les sectes. Mais je me suis dit, j'ai su baptiser chrétien catholique. Et pour moi, la religion n'est pas une chemise qu'on dépose face aux difficultés. Je me suis dit, je préfère mourir que de vouloir changer de religion. En tout cas, la souffrance a duré le temps que ça pouvait. Mais heureusement, Dieu est venu à mon secours. Parce qu'il m'a permis de retrouver le chemin de mon église. Et retournant à l'église, j'ai eu la chance de tomber sur un prêtre missionnaire. Comme s'il m'attendait, il a commencé à prendre tout son temps pour m'écouter. Et en même temps, il a commencé à me soutenir. Et au même moment, ce même prêtre a organisé un pèlerinage sur Jérusalem. Et il m'a fait partir à Jérusalem. Je dirais qu'au cours de ce pèlerinage, le Seigneur m'a beaucoup donné. Je ne saurais jamais comment lui rendre grâce. Mais ce qui est important, c'est qu'au moment, au cours du pèlerinage, un jour, pendant la messe, le prêtre disait dans son homélie que chaque chrétien doit participer à la construction de l'église en posant lui aussi une pierre. J'ai compris que l'église n'est pas seulement l'affaire des prêtres, des religieux et religieuses, mais c'est l'affaire de tous les baptisés. Mais en même temps, j'ai commencé à me dire quelle est la pierre que je vais pouvoir poser. Retournant à Boaké où je vivais, cette femme me travaillait tellement que j'ai commencé à partager avec mon épouse ce que je ressentais au fond de moi. On a commencé à mettre en prière et à la fin, l'idée m'est venue de mettre sur pied un groupe de prière. Et c'est ce groupe de prière que j'ai pris un jour pour aller dans l'hôpital général, dans le but d'aller visiter les malades et prier avec eux.
Mais ça, cette idée-là, elle vous est venue comme ça?
Il faut dire que ça venait comme ça.
Une espèce d'intuition intérieure?
Exact. Bon, je dirais que au cours du groupe de prière qu'on avait mis sur pied, un jour, un des membres est venu me trouver. Grégoire, il y a un enfant qui est gravement malade dans le quartier. Est-ce qu'on peut aller prier pour cet enfant? C'est une famille musulmane. Il dit, mais qu'il soit musulman ou pas, quel est notre problème? L'essentiel est que la famille accepte. L'enfant était dans le coma. L'enfant était hospitalisé à l'hôpital. Et quand la maladie s'est aggravée, la famille est venue à la maison en attendant la mort de l'enfant. On s'est retrouvés autour de l'enfant, on a prié. Et puis, chacun est parti chez lui. Le lendemain matin, bonheur, celui qui était venu me voir est venu en courant, commencer à frapper la porte. Grégoire, sors vite, sors vite. J'ai dit, mais Emmanuel, qu'est-ce qu'il y a ce matin? L'enfant pour lequel nous sommes allés prier hier, sa maman est venue me réveiller ce matin en disant, votre Dieu est fort. Mon enfant qui ne pouvait plus parler ni manger, après votre départ, il a commencé à pleurer et à demander à manger. Il dit, Emmanuel, écoute, c'est Dieu qui fait son travail. Notre devoir, c'est de continuer à porter l'enfant dans la prière. Ce que nous avons eu à faire. Et à la fin, l'enfant est totalement guéri. C'est au vu de ça, je me suis dit, sûrement Dieu a besoin de nous à quelque part. Pourquoi ne pas aller visiter les malades à l'hôpital? Et la proposition a plu à tout le monde. On s'est rendu à l'hôpital. Et en visitant les malades, on va trouver dans une salle des malades qui étaient totalement abandonnés, sans aucun traitement. Il faut dire que chez nous, en Afrique, il n'y a pas de sécurité sociale. Donc, vous n'avez pas d'argent, pas de traitement. Face à ces personnes, on s'est dit, avant de commencer à prier, il faut leur manifester notre amitié. C'est ainsi qu'on va commencer à les laver, chercher des voies et moyens pour payer les médicaments pour qu'on puisse les soigner. Et rapidement, beaucoup ont commencé à retrouver leur santé. Et ceux qui devaient mourir, au moins meurent dignement comme des hommes. Si vous voulez, c'est à partir de là que personnellement, je vais commencer par comprendre pourquoi Jésus-Christ s'est identifié aux pauvres et aux malades. Et c'est à partir de là que notre désir désormais, c'est d'aller vers les plus pauvres.
Donc pendant plusieurs mois, pendant plusieurs semaines, vous avez prié dans les hôpitaux et particulièrement auprès de ceux qu'on mettait complètement de côté. Et là, vous avez vu des fruits. Et
on a vu des fruits. Des malades qui étaient totalement mal, qui ont commencé à retrouver leur santé. C'est devenu même une de nos activités principales dans cet hôpital. Si bien que la nuit, n'importe qui venait à l'urgence, ils n'ont pas d'argent. Les médecins m'ont dit, pardon, il faut installer un téléphone à la maison, il faut qu'on t'appelle. En tout cas, on a fait ce qu'on pouvait. Et puis, voulant toujours chercher Dieu dans les pauvres, on va sentir de nouveau un autre appel vers la prison. Arrivé à la prison, c'était encore une autre histoire. Des prisonniers qui vivaient une histoire terrible. Avec la grâce de Dieu, on a pu remettre une certaine dignité dans cette prison. Ils étaient totalement entassés, pas de toilettes, pas d'infirmerie.
Comment avez-vous fait pour leur faire retrouver leur dignité?
Écoutez, ma sœur, dès qu'on est arrivé, le directeur de la prison même a commencé à dire « Venez à mon secours ». On a pu remettre des toilettes. C'est-à-dire, les toilettes étaient totalement bouchées. Ils déposaient leurs excréments et on ramassait avec la main dans des seaux pour aller verser au dehors. On a pu ouvrir une infirmerie et l'école des infirmiers nous donnait deux élèves infirmiers. Et après, voulant chercher toujours Dieu dans les pauvres, en 90, va commencer l'histoire des malades mentaux. Il faut vous dire que les malades mentaux sont les oubliés, des oubliés de nos pays d'Afrique. Ils sont oubliés de tout le monde. Ils sont livrés à eux-mêmes. On pense qu'ils sont possédés par le diable. Ils sont réduits en état d'ordure.
On les rejette, on les exclut par peur.
C'est que les malades mentaux dans nos pays d'Afrique, c'est les derniers soucis de nos autorités. En Côte d'Ivoire, où nous avons commencé cette activité, il n'y a que deux hôpitaux psychiatriques qui existaient. Pour tout le pays.
Alors, qu'est-ce que vous avez fait, Grégoire?
Alors, il faut dire que tout le monde avait peur des malades mentaux. Même moi aussi qui vous parle, j'avais peur d'eux. Mais un jour, je passais dans la rue et j'ai vu un malade tout nu, comme d'habitude, qui fouillait la poubelle en train de chercher sa nourriture. Ce jour, brusquement, je me suis arrêté. J'ai commencé par le regarder. J'avais toujours l'habitude de voir, mais ce jour, ça a été pour moi une autre manière de le voir. J'ai commencé à me dire, mais ce Jésus que je cherche dans les églises, que je vais rencontrer dans les sacrements. Mais c'est lui, Jésus, qui souffre en personne à travers ces malades. Du coup, je me suis dit, mais ils font peur. Et comme si c'était quelqu'un qui me parlait, mais s'il représente pour toi la personne de Jésus, pourquoi désormais avoir peur d'eux? C'est à partir de ce jour que je vais commencer par me promener toutes les nuits dans les rues pour voir où ils dorment. Et après, j'ai commencé par les rencontrer. Et en les rencontrant, j'ai commencé par découvrir que c'était des hommes, des femmes, qui cherchait aussi à être aimé, aimé comme tout le monde. J'en ai parlé avec mon épouse, elle prépare, elle fait la cuisine, et toutes les nuits, avec un repas pour chacun, je passais trouver chacun à son lieu où il dort, je lui donne de l'eau fraîche et la nourriture, et si vous voulez, c'est à partir de là qu'il y a eu un lien d'amitié qui a été créé entre moi et ces malades. Mais un jour, je me suis dit, mais à quoi ça sert d'aller donner à manger à quelqu'un dans la rue? Et je viens me coucher tranquillement chez moi. Pourtant, j'ai dit qu'il représente la personne de Jésus. Il fallait faire quelque chose de plus. C'est ainsi qu'on va aller rencontrer le directeur de l'hôpital où nous visitons les malades. Il y avait une ancienne buvette. On lui a demandé. Il nous a cédé ça, on l'a transformé comme la petite chapelle de l'hôpital. C'est dans cette petite chapelle qu'on va commencer à regrouper les premiers malades, en les traitant dignement comme des hommes. Bien sûr, aussi avec des médicaments. Et on va commencer à avoir des résultats qui vont commencer à surprendre tout le monde. À cette époque, il y avait mon épouse, il y avait ma femme, il y avait trois ou quatre personnes qui m'aidaient à aller les visiter dans la rue. Mais quand on a commencé à les regrouper, on était cinq. Et puis en 93, le ministre de la Santé de Côte d'Ivoire venait pour une visite. Et le ministre, en découvrant, il était tellement heureux. Quand il a vu ça, il dit, écoutez, je souhaite que votre association soit vite répandue dans tous les hôpitaux du pays. Car face à ces laissés pour compte, nous-mêmes, on ne sait pas quoi faire. Et comme ça l'a beaucoup, j'ai vu que ça l'a beaucoup intéressé, je lui ai dit, monsieur le ministre, si vous pouvez nous donner un espace à l'intérieur de l'hôpital pour créer notre centre sur place, il a donné des instructions et on nous a accordé un espace, un terrain vide à l'intérieur de l'hôpital pour créer le premier centre. Ce fut déjà pour moi le premier miracle. Les malades mentaux dans le même hôpital que les malades ordinaires, ça n'existe pas.
Interrogé par Sœur Catherine Aubin, l'invité de ce dimanche était Grégoire Aung-Bonon. Il a reçu pour son œuvre les prix Franco-Bassalia et le prix de l'OMS pour la lutte contre l'exclusion sociale. Nous le retrouverons, ainsi que Sœur Catherine Aubin, la semaine prochaine pour entendre la seconde partie de son parcours. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. Je vous donne rendez-vous demain, même lieu, même heure, pour un nouveau magazine de Radio Vatican. D'ici là, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet www.radiovaticana.va.